Cette balado-diffusion est une présentation du sommet Coors Light. Ne manquez pas l'émission de divertissement sportif déjanté sur les ondes de RDS.
Bon lundi tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Sur la glace. Nous sommes le 19 mars et oui, la saison régulière est terminée dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Une autre saison qui est passée comme un coup de vent. 68 matchs, chacune des 18 formations a terminé son calendrier. Ça devait se terminer samedi, ça s'est finalement terminé hier puisque mercredi dernier, Rimouski n'avait pas été en mesure de se rendre à Boisbriand pour jouer le match qui était prévu entre les deux équipes mercredi soir. Alors on a repris ça hier après-midi. Mais là, c'est complet d'ailleurs dans les trois ligues juniors au Canada. Les séries vont s'amorcer jeudi et vendredi au cours de la prochaine semaine. Donc, il sera abondamment question, évidemment, de cette fin de saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va d'ailleurs commencer notre émission avec le hockey junior cette semaine. Question de mettre la table en vue de ces séries éliminatoires qui s'amorcent, comme je le disais, jeudi. Un petit peu plus tard, au cours de notre émission, nous vous présenterons une entrevue qu'on a réalisée samedi à Québec avec le directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec, Philippe Boucher. Les Remparts qui ont terminé la saison quand même avec 40 victoires, ce qui est toujours un chiffre un peu baromètre, là, un chiffre un peu magique, je dirais, pour dire qu'une équipe a connu une bonne saison. Dans le cas des Remparts, 40 victoires, ce qui est assez phénoménal. 14 de ces victoires remplies d'égalité, 12 en prolongation et 2 en tir de barrage. Donc, c'est assez exceptionnel. Alors, il en sera question avec les Remparts de Québec qui, incidemment, auront l'avantage de l'Atlas en séries éliminatoires pour le premier tour des séries contre les Islanders de Charlottetown. Un peu plus tard, on va également s'entretenir avec notre collègue Raphaël Doucette de la semaine du Rocket. Le Rocket, qui, on le sait, est en plein milieu d'un mois complètement fou, 16 matchs en 30 jours. Il y en a 10 de joués jusqu'à présent. Le Rocket a jusqu'ici accumulé 3 victoires et 7 revers dans le mois de mars. Encore une fois, beaucoup de mouvements de personnel autour de la formation École du Canadien. La saison qui tire à sa fin dans la Ligue américaine, il reste à peu près un mois. Il reste 11 matchs à jouer au Rocket de Laval. Et le week-end prochain, Laval va encore une fois jouer 3 matchs en 3 jours, vendredi et samedi à domicile contre les Checkers de Charlotte. Et dimanche après-midi, l'équipe va se rendre à Belleville pour affronter les Sénateurs. Le match de samedi après-midi à 15h sera d'ailleurs présenté sur les ondes de RDS. Donc, ce duel entre les Checkers de Charlotte, club école des Hurricanes de la Caroline, face au Rocket de Laval. La saison, comme je le disais, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, s'est terminée hier. Alors, il faut lever notre chapeau à l'Armada de Blainville-Boisbriand qui a atteint le plateau des 50 victoires. Si tantôt je disais que 40 victoires, c'est un peu un chiffre baromètre, imaginez quand on parvient à gagner 50 des 68 matchs de la saison. C'est ce que l'Armada de Blainville-Boisbriand a fait cette saison. Et ce, en dépit, faut-il le rappeler, que Pierre-Luc Dubois n'est jamais revenu avec l'Armada cette année. Lui, qui a 19 ans, était encore admissible pour jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais on connaît l'histoire. Il est demeuré avec les Blue Jackets de Columbus et il connaît une excellente première saison dans la Ligue nationale. Mais bon, l'Armada de Blainville-Boisbriand est allé chercher 107 points au classement. C'est 11 de mieux que le Titan d'Acadie Batters, qui a pris le deuxième rang. L'Armada est la seule équipe qui a gagné au moins 20 matchs à l'étranger cette année. En fait, elle en a gagné 23 sur les patinoires adverses. C'est un sommet dans le circuit. 27 victoires à domicile, ça c'est le même nombre que l'Océanique de Rimouski. L'Armada s'est fait coiffer à la toute dernière minute pour le trophée Luc Robitaille, l'équipe qui marque le plus de buts en saison. Les Voltigeurs de Drummondville, grâce à une poussée là, de 21 buts à leurs 3 derniers matchs, sont allés chercher ce trophée par un petit but, 277 contre 276. En défensive, l'équipe de Joël Bouchard a pris le troisième rang derrière Rimouski et le Titan d'Acadie Batters. L'Armada a la meilleure unité en avantage numérique de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, c'est vraiment une excellente saison et c'est Alex Barré-Boulay, un des porte-couleurs de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui remporte le trophée Jean Béliveau. Joueur de 20 ans, il a terminé la saison avec 116 points en 65 matchs. C'est le seul marqueur de 50 buts dans la Ligue junior majeure du Québec cette année. Il a terminé la campagne avec 53 buts. Coup de chapeau également à Vitaly Abramov des Tigres de Victoriaville qui a pris le deuxième rang avec 104 points et il a joué 9 matchs de moins que Barré-Boulay. Si l'an dernier, Abramov, qui avait été laissé de côté par l'entraîneur russe Valérie Bragin pour le championnat du monde de hockey junior. Ça lui a probablement permis de gagner le championnat des compteurs de la Ligue par un petit point l'an dernier, alors qu'il évoluait avec les Olympiques de Gatineau. Bien, cette année, on peut dire qu'il a été privé d'un deuxième championnat des pointeurs de la Ligue en raison justement de sa participation au championnat du monde de hockey junior qui lui a fait rater là, 7-8 matchs au cours de la période des Fêtes. Mais quelle fin de saison Abramov a connue avec les Tigres de Victoriaville. D'ailleurs, lui et son trio qu'il complète avec Maxime Comtois et Ivan Kozorenkov. Écoutez, à trois, ils ont arrêté le compteur là, à 125 buts. Abramov en a 45, Maxime Comtois en a 44 et Kozorenkov en a 36 pour terminer la saison. Donc, c'est vraiment un trio assez exceptionnel présentement là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est-à-dire que c'est le meilleur trio du circuit. Bien, il y en a des bons, des trios, là, mais c'est assurément un des bons. Donc, les Tigres de Victoriaville qui, somme toute, ont pris le sixième rang du classement général, mais dans mon esprit à moi, les Tigres font partie des trois meilleures équipes de la Ligue junior majeure du Québec avec l'Armada et le Titan d'Acadie Bathurst. Est-ce que ces trois équipes-là vont réussir à se qualifier pour le carré d'as, la ronde demi-finale? Moi, j'ai l'impression que oui. En ce moment, c'est difficile de parier contre les Tigres qui ont été la meilleure équipe en deuxième moitié de saison. Ils ont été chercher 55 points de classement dans les 34 derniers matchs. Ils terminent la saison avec 11 victoires de suite. C'est l'équipe de l'heure présentement. Alors, les Tigres de Victoriaville qui ont terminé donc 2 points derrière Drummondville et 3 points derrière Halifax au classement, mais... Je pense que si Victoriaville avait à jouer une série contre Halifax et Drummondville en ce moment, faudrait favoriser les Tigres de Victoriaville. Donc, voici donc le portrait de cette première ronde. Il y a une série qui va commencer jeudi. L'Armada qui va recevoir les Foreurs de Val-d'Or. Et là, écoutez, ça devrait être une formalité. Il y a 62 points d'écart entre ces deux équipes. Alors, je vois pas comment les Foreurs, qui ont perdu incidemment leurs 13 derniers matchs en saison régulière, pourraient aller chercher une victoire contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Prédiction, là, tout de suite, ce sera disponible cette semaine sur le site de rds.ca, mais dans ce cas-ci, je peux déjà vous l'annoncer, là, l'Armada devrait gagner en 4 matchs. Les autres duels vont commencer vendredi et samedi. Les Saguenay de Chicoutimi, 15e au classement général, vont affronter le Titan d'Acadie Bathurst. Ça, c'est une série qui va être intéressante parce qu'il y a deux transactions qui ont eu lieu cette année entre ces deux équipes-là. Les Sags qui ont cédé à un certain moment à German Roubsoff et également le défenseur Olivier Galipeau au Titan. Donc, il y a une historique entre les deux. Le Titan qui a été la deuxième meilleure équipe de la Ligue junior majeure du Québec derrière Victoriaville en deuxième moitié de saison. C'est de bon augure aussi pour le Titan. Et ce que je veux souligner dans le cas du Titan, et on a souvent tendance à le dire lorsque ça va pas bien, mais là, on commence à faire des sales combles à Bathurst. On a retrouvé là, des assistances de 3500 spectateurs en fin de saison et ça fait vraiment du bien là, pour les amateurs du Titan et de la région chaleur au Nouveau-Brunswick parce qu'on le sait, là, on n'a pas été gâté beaucoup dans les dernières années, mais cette année, honnêtement, le Titan a une excellente machine de hockey et probablement une des bonnes défensives, sinon la meilleure de la Ligue, menée par Olivier Galipeau et Noah Dobson. Dobson, qui est un espoir de premier plan pour la séance de sélection de la Ligue nationale cette année. Le troisième duel va mettre en vedette les Wildcats de Moncton, qui ont terminé 14e à l'Océanique de Rimouski, qui prend le troisième rang en raison de sa première place dans la section Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, confrontation intéressante entre deux des meilleurs joueurs de 16 ans de la Ligue, Alexis Lafrenière du côté de Rimouski et Jacob Pelletier du côté de Moncton. Rimouski devrait être favorisé et gagner cette série-là. Le quatrième duel, bien, il y a un historique également entre le Drakkar de Baie-Comeau et les Moussets de Halifax. On le sait, ces deux équipes-là se sont affrontées en finale il y a quelques années. On se souvient de la transaction entre les deux équipes. Nathan MacKinnon, qui n'avait pas voulu aller jouer avec le Drakkar, a fait une grosse transaction avec les Moussets d'Halifax. Jared McIsaac, le défenseur d'Halifax, qui n'a pas voulu aller jouer à Baie-Comeau l'an dernier non plus. Alors, j'ai l'impression qu'on va sortir quelques histoires là, dans cette série-là entre Halifax et Baie-Comeau. Baie-Comeau qui, qu'on le veuille ou non, a été une des déceptions cette année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, terminant au 13e rang. Le duel suivant va opposer les Screaming Eagles du Cap-Breton, 12e, aux Voltigeurs de Drummondville, 5e. Les Screaming Eagles ont eu toutes sortes de difficultés devant le filet cette saison. Ils ont accordé 259 buts. Leurs gardiens ont manqué de constance. Pourtant, on pensait que ça pourrait être une force du côté du Cap-Breton en début de saison. Et là, on va se mesurer. Quand on a des problèmes devant le filet, c'est jamais très bon d'affronter la meilleure attaque de la Ligue. Et c'est ce qui va se passer lorsque les Voltigeurs de Drummondville vont sauter sur la glace contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Parlant de Drummondville, je veux souligner la très belle saison de Joe Valeno. qui a terminé la campagne avec 79 points en 64 matchs au 10e rang des marqueurs du circuit. Il a surtout connu beaucoup de succès depuis sa venue à Drummondville. Faut être honnête, là, ça a changé complètement sa saison et les recruteurs sont nombreux à voir l'éclosion et les progrès qu'a fait Joe Veleno à Drummondville. En 33 matchs, il est allé chercher 48 points, 16 buts et 32 passes, alors qu'il n'avait que 31 points en 31 matchs à Saint-Jean avant de se présenter à Drummondville. J'étais au match vendredi dernier entre les Olympiques et les Voltigeurs. Joe Veleno qui a réussi son deuxième tour du chapeau de la saison sous les yeux de plusieurs recruteurs, dont Trevor Timmons du Canadien qui était là vendredi. Donc, Drummondville, en principe, devrait avoir le meilleur sur le Cap-Breton également. La série entre Gatineau et Victoriaville devrait être une formalité pour les Tigres qui, comme je le disais, ont terminé la saison avec 11 victoires. Ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que Vitaly Abramov va retrouver ses anciens coéquipiers des Olympiques de Gatineau. Un duel qui devrait être émotif, mais normalement à l'avantage des Tigres qui ont gagné leurs 11 derniers matchs face aux Olympiques qui ont perdu leurs 7 derniers. Alors, ce ne sera pas facile pour les Olympiques. Les deux autres séries sont beaucoup plus serrées. On parle du duel entre les équipes 7 et 10, soit Sherbrooke et Rouyn-Noranda, et le duel entre les équipes 8 et 9, Québec et Charlottetown. Ces deux séries-là vont probablement être un peu plus longues. Est-ce qu'on va aller à 6 matchs ou 7 matchs? On verra bien, mais s'il y a des séries qui peuvent s'étirer, c'est ces deux-là. Rouyn-Noranda, Sherbrooke, deux équipes qui font partie de la même section, qui se sont affrontées souvent au cours de la saison. C'est jamais facile pour les Huskies contre le Phoenix de Sherbrooke. D'ailleurs, cette année, on a vu une séquence seulement, 3 victoires, 3 défaites entre les deux équipes. Donc, ça a été égal. Et j'ai l'impression que ça risque d'être égal encore dans cet affrontement en série. Finalement, le dernier duel va mettre en vedette Québec et Charlottetown. Et dans le cas de Québec et Charlottetown, c'est le seul duel qui va commencer samedi à Québec, puisque la patinoire n'est pas libre, le centre Vidéotron n'est pas libre vendredi. Donc, on va jouer samedi et dimanche à Québec. Et il y a beaucoup de ces séries-là qui impliquent des équipes qui sont séparées par plus de 600 km, qui doivent prendre la formule 2-3-2. Et ça, on n'aime jamais ça quand on a l'avantage de la glace, jouer 2 matchs à la maison puis aller jouer 3 matchs à l'étranger par après. Parce qu'évidemment, si tu échappes un match à la maison dans tes 2 premiers, ça te place dans une position précaire. Québec et Charlottetown, ce sera un de ces duels qui va mettre en vedette une série, qui va donner une série 2-3-2. Alors, c'est un des sujets qu'on a parlé avec l'entraîneur-chef et directeur général Philippe Boucher à l'issue de la rencontre de samedi, lorsque les Remparts ont confirmé leur 40e victoire de la saison gagnée en tir de barrage contre l'Océanique de Rimouski. On a parlé, entre autres, de ce duel contre les Islanders de Charlottetown et aussi de la reconstruction des Remparts là, qui, lentement mais sûrement, se fait après, évidemment, la fameuse épopée de la Coupe Memorial de 2015. On a vécu 2 saisons plus difficiles, 15-16 et 16-17, et là, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Alors, voici l'entretien qu'on vous propose avec Philippe Boucher, entraîneur-chef et directeur général des Remparts.
Philippe, une autre saison qui est terminée. Ouais. Les Remparts ont gagné 40 matchs cette année. Je t'en parlais tantôt. C'est un beau chiffre, 40 victoires dans leur
équipe. C'est très bien. Moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive avec les Remparts aussi. Puis c'est 6-7 équipes qui l'ont fait cette année. C'est pas un chiffre qu'on avait en tête au début de l'année. On avait l'avantage de la glace en tête. C'est ce qu'on a réussi à faire. Puis crédit revient aux joueurs. Là. C'est une longue saison, c'est éreintant. Avec une ligue qui est de plus en plus compétitive aussi ou équilibrée, là, c'est difficile, puis c'est quand même le fun de l'avoir fait de belle façon, surtout que nos 20 ans ce soir-là.
C'est votre meilleure saison depuis la Coupe Memorial de 2015. On remonte tranquillement la pente. Pensais-tu que ce serait aussi difficile que ça le lendemain de la Coupe Memorial? On en parlait beaucoup quand c'est arrivé.
Oui, non, pas du tout, parce qu'honnêtement, entre moi et toi, l'année passée, le problème qu'on avait, c'est qu'on se préparait avec 6 joueurs blessés à l'avant à la même position. On était premier, ça aurait été la reconstruction la plus rapide, probablement, qui n'a jamais été vue. On était premier dans la division en AL. On avait laissé aller certains joueurs, mais on a pogné 6 blessures en même temps, puis des joueurs clés, ça a été plus difficile. Alors, le résultat des séries a été très décevant l'année passée. 2 années de je ne dirais pas de misère, mais de hockey plus difficile, je pense que c'est normal après une Coupe Memorial. Puis, on a repêché plus tôt, on a bien repêché, on a des bons jeunes. Cette année, c'est une bonne saison. Les séries, on espère qu'ils vont aller bien. L'année prochaine, puis l'année d'après, on est en droit de s'attendre là, à des bonnes saisons. Fait que c'est un processus normal quand tu te mets ta tête sur la bûche, puis tu décides d'avoir la Coupe Memorial chez toi. Là.
Vous allez affronter les Islanders de Charlottetown. Moi, c'est une équipe qui m'a beaucoup surpris cette année. Quand on faisait les prévisions en début de saison, on était convaincus que cette équipe-là ne ferait pas les séries, puis a réussi à se maintenir dans le milieu du peloton.
J'ai hâte de les voir, on les voit pas souvent. Quand on les a vus ici, est très bien structuré, très bien coaché. C'est un club physique. Eux autres aussi ont rentré des agents libres. Disons, on a ici qui ont fait la différence cette année, comme Sam Dunn. Eux autres aussi en a emmené. Une transaction qu'on est certain qu'on va jaser beaucoup là, de Gentle pour Grouchy et McLeod qui s'est faite entre les deux équipes. Fait qu'on va, on va regarder des games là, des dernières semaines pour en savoir plus sur eux autres, mais ça va être une bonne série, c'est sûr.
Dans le temps des fêtes, tu parlais d'Antoine Samuel comme une acquisition clé. Là, les séries arrivent. Dans le fond, il ne faut pas se compter du soir. C'est pour ça que vous êtes allé le chercher aussi. Là,
oui, exactement. Derek avait une bonne saison. Il avait besoin d'aide. Écoute, on a, il était très bon. Il était très bon ce soir. Très bon. J'aime. Il est combatif. Il fait bien ça sur la glace. Puis alors, la glace, ben, ça, son résumé parle de lui-même. L'étudiant de l'année passée, finaliste encore. Très bon leader. Puis il nous aide beaucoup depuis qu'il est là.
Quand tu regardes la Ligue cette année, je pense que c'est une saison qui va être marquante. Les joueurs de 16 ans qu'on a rentrés dans la Ligue, tu sais, je veux dire, bon, Lafrenière n'a pas joué aujourd'hui, mais on voit ce qu'il a accompli. Puis tous les autres jeunes, ça, c'est un point tournant peut-être pour la Ligue?
Là. Ben oui, tu gardes Poulain, blessé en début de saison, mais il joue très bien. Ici à Québec, le monde connaît très bien Pelletier. Puis Lafrenière, wow, quel joueur de hockey. On est chanceux d'avoir un joueur comme ça dans la Ligue. Un joueur exceptionnel, on ne le cachera pas, là, avec beaucoup d'attentes, mais qui a toutes les raisons de croire qu'il va être capable de remplir ses attentes-là. Très bonne tête, tomber dans une bonne organisation entre bonnes mains. Puis c'est le fun pour les partisans qui se déplacent, évidemment, à Rimouski, mais partout dans la Ligue, là, on va avoir des spectacles. On a eu cette année, puis on en parlait avant game, mais qu'ils soient encore là dans la Ligue à 18 ans, ça va être dur de le contrer. Là.
Bonne chance pour les séries.
Merci.
Et je veux souligner pour les Remparts de Québec qui ont repris cette année. Ils s'étaient fait coiffer l'an dernier par les Oil Kings d'Edmonton, mais cette année, ils ont repris la pole comme l'équipe étant celle qui attire le plus de spectateurs dans la Ligue canadienne de hockey. Ils terminent la saison avec une moyenne de 9002 spectateurs par match, 9002. Et ils ont coiffé les Knights de London qui, eux, attirent 8959 spectateurs en moyenne par rencontre. Donc, bel accomplissement à nouveau pour les Remparts de Québec. Premier au Canada pour les assistances dans la Ligue, au sein des 60 équipes là, de la Ligue canadienne de hockey. Un petit mot sur ce qui va se passer dans l'Ouest et en Ontario également pendant les séries, puisque là aussi, c'est terminé. Dans l'Ontario, on vous en a souvent parlé cette saison, les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, meilleure équipe au Canada, qui ont terminé avec 55 victoires et 116 points, 19 de mieux que la deuxième meilleure équipe, le Sting de Sarnia. Alors évidemment, Sault-Sainte-Marie, là, qui va amorcer une série contre Saginaw, est largement favori pour gagner la Coupe dans la Ligue de l'Ontario, la Coupe Robertson. On va jeter un œil également sur André Tourigny et ses 67 d'Ottawa qui ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires. Ce ne sera pas facile puisqu'ils vont affronter en première ronde les Bulldogs de Hamilton. Les 67 qui ont terminé 8e, qui vont donc affronter Hamilton, qui, rappelons-le, a fait l'acquisition de Robert Thomas et qui aligne, entre autres, l'espoir du Canadien Will Bitton, qui a terminé la saison avec 64 points en 62 matchs. Un petit mot également dans la Ligue de l'Ouest, où là aussi, c'est terminé. Les champions du calendrier régulier, les Warriors de Moose Jaw, qui ont terminé la campagne avec 109 points. Et les Warriors alignent un joueur, Jaden Algewatch. Vous ne le connaissez pas, c'est un espoir des Sharks de San Jose, pas un gros gabarit. Il a réussi à marquer 70 buts cette saison. C'est la première fois en presque 20 ans là, qu'un joueur marque 70 buts dans la Ligue de l'Ouest. Il faut remonter à Pavel Brandl à la fin des années 90. Alors, 70 buts et 59 mentions d'aide pour 129 points. C'est le meilleur marqueur au hockey junior canadien cette année. Et c'est lui qui a conduit les Warriors de Moose Jaw au premier rang du classement général dans la Ligue de l'Ouest. Alors, au cours des prochaines semaines, on va suivre évidemment ce qui va se passer dans les trois ligues juniors au Canada. C'est le moment maintenant de parler de la Ligue américaine de hockey et du Rocket de Laval. Et pour ce faire, on va inviter avec nous Raphaël Doucette, collaborateur au RDS.ca et analyste des matchs à la radio 91.9, la radio du Rocket. Salut Raphaël, j'espère que ça va bien ce lundi matin.
Salut Stéphane, ça va bien toi?
Oui, ça va bien. Écoute, Raphaël, on l'a dit, c'est un mois de mars infernal pour le Rocket. 16 matchs en 30 jours. Là, on en a 10 de jouer de ces 16 matchs-là. 3 victoires et 7 défaites depuis le début du mois de mars. À nouveau, une semaine un peu difficile pour le Rocket. Revers à Toronto lundi dernier, revers à Toronto mercredi. Une victoire à Utica vendredi et une autre défaite à Syracuse samedi. Donc, bilan tout ça, une victoire, 3 défaites. Et encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements de personnel.
Oui, exactement. Beaucoup de mouvements personnels. Là. Les derniers, on a décidé de libérer là, Gabriel Desjardins, Willie Corrin et puis Luc-Olivier Blin de leur essai professionnel. Mais c'est très difficile pour le Rocket là, en cette fin de saison de rivaliser, particulièrement lors du récent voyage. Tu avais deux affrontements contre la meilleure formation de la Ligue américaine, les Marlies de Toronto. Également, les Comets d'Utica se battent présentement pour une place en série. Et le Crunch de Syracuse, ben c'est la deuxième formation qui est qualifiée pour les séries là, présentement dans la Ligue américaine après les Marlies. Donc, ça a été une seule victoire en quatre matchs. Et c'est dur de rivaliser quand tu as 7 ou 8 joueurs qui ont joué au moins un match dans la Ligue de la Côte Est cette année. C'est pas mal le ratio là, de la dernière semaine pour le Rocket de Laval. Donc, 40% de l'effectif, c'était des joueurs qui ont passé par la Coast cette saison.
Lorsqu'Andrew Shaw a été blessé chez le Canadien plus tôt cette semaine, on a lancé un SOS à Michael McCarron. Est-ce que ça t'a surpris qu'on rappelle McCarron, peut-être au profit de Kirby Reichel?
Oui, oui, j'étais surpris parce que Michael McCarron, comme tu as pu le constater, Stéphane, ne casse pas grand-chose depuis qu'il est de retour avec le Rocket de Laval, malgré le fait qu'on continue à l'utiliser à outrance, notamment en avantage numérique. Il avait seulement le 7 buts en 52 matchs au moment de son rappel. Et pourquoi on a rappelé Michael McCarron au lieu de Kirby Reichel? Ben, parce que Reichel, c'est un ailier et McCarron, lui, est capable de jouer au centre. Donc, je pense qu'on voulait ajouter une certaine profondeur au centre là, en raison des blessures d'Andrew Shaw et de Philippe Dano. Mais si on y allait vraiment au mérite, ben Kirby Reichel, Adam Cracknell, Chris Terry auraient mérité un rappel davantage que McCarron. Mais finalement, on a décidé d'y aller avec, encore une fois, le gros numéro 34.
Kirby Reichel qui a marqué 6 buts en 10 matchs depuis sa venue avec le Rocket. On l'a dit, c'est pas le meilleur patineur, mais forcé d'admettre qu'il réussit à trouver le fond du filet et réussit à quand même obtenir des points. Le 9 points en 10 matchs depuis qu'il est là, je pense que c'est une belle, en tout cas, c'est un beau risque qu'on a pris avec lui là, jusqu'à présent.
Oui, exactement. T'sais, c'est quand même encore un jeune joueur à 23 ans. Mais Kirby Reichel, s'il veut s'implanter dans la Ligue nationale avec le Canadien ou ailleurs, c'est certain que cet été, va devoir multiplier les efforts là, pour améliorer son coup de patin. Mais sinon, il a vraiment une certaine touche autour du filet adverse. Il est capable de bien se placer, de bien se positionner. Un bon tir des poignets. Puis le long des bandes là, et près du filet adverse, il est quand même très fort sur ses patins, ce qui lui permet là, de s'emparer de rondelles libres ou de batailler avec les défenseurs adverses. Mais vraiment, sa faiblesse, c'est son coup de patin. Là. Voilà pourquoi les Blue Jackets et les Maple Leafs sont abandonnés dans son cas.
Sylvain Lefebvre continue de prôner une certaine alternance entre Zach Fucale et Michael McNiven, les deux gardiens qui s'échangent les matchs. Mais il faut être honnête, encore une fois, Fucale réussit à aller chercher les quelques victoires que le Rocket va chercher. C'est Fucale qui les signe. Il a 10 victoires là, sur les 24 acquises par le Rocket cette année, même si c'est le gardien qui a joué le moins de matchs. On en parle régulièrement de ce dossier-là, là, mais forcé d'admettre que Fucale, malgré tout, le connaît une très bonne saison.
Oui, exactement. C'est remarquable les chiffres de Fucale. Là, 10 victoires, 5 défaites au sein d'une formation qui a seulement 24 victoires en 65 matchs depuis le début de la saison. Et puis encore une fois, là, lors du plus récent voyage, ça a été l'alternance. Et puis Michael McNiven, à sa défense, a quand même bien fait le samedi à Syracuse, particulièrement en troisième période. Il a effectué le 3-4 arrêts spectaculaires pour garder son équipe dans le match. Mais le problème, c'est que le score était déjà de 4-2. Donc, autre défaite pour Michael McNiven, qui a une fiche de 1 victoire et 9 revers à ses 10 dernières décisions. Donc, le gardien de but recrue, là, se doit de terminer la saison en force, parce que présentement, quand on regarde un peu la situation des gardiens de but chez le Canadien, également chez le Rocket, ben, si la tendance se maintient, l'an prochain, ça pourrait être un duo Price-Lindgren à Montréal, et on pourrait avoir Michael McNiven comme numéro 1 chez le Rocket. Mais là, présentement, dans sa saison recrue, il n'a pas convaincu grand monde là, qui est vraiment capable d'être un numéro un dans ce circuit-là.
Non, et Fucale connaît des bons moments. Et tu parles de Lindgren à Montréal. Évidemment, c'est un sujet qui va faire jaser. Est-ce que Niemi sera de retour avec le Canadien l'an prochain comme police d'assurance? Parce que Lindgren a beau avoir signé un contrat à un seul volet, il n'est pas exclu qu'il retourne quand même avec le Rocket l'an prochain si on juge là, qu'on doit garder une police d'assurance à Montréal avec Carey Price. Mais ça, évidemment, c'est un autre dossier. Dis-moi, le week-end qui s'en vient pour le Rocket, ce ne sera pas évident non plus. Les Checkers de Charlotte qui s'amènent pour leur seule visite de la saison à Laval. Laval a perdu les deux matchs quand il est allé à Charlotte et eux sont impliqués dans une course pour les séries éliminatoires dans la section Est.
Oui, section Atlantique, une puissance offensive. Hein? Ouais. Une puissance offensive que les Checkers de Charlotte qui sont présentement là, tu l'as dit, impliqués dans, dans la course, dans la division atlantique, là, se bataille pour le troisième ou le quatrième rang de cette division-là. Puis il y a vraiment beaucoup d'armes offensives, notamment la recrue Warren Fogle, qui est déjà rendu à 25 buts. Et sinon, les Québécois, là, Nicolas Roy et Julien Gauthier seront à surveiller en fin de semaine. Donc, ça va être un gros mandat là, pour le Rocket de recevoir vendredi et samedi après-midi les Checkers. Et à la suite du match de samedi, le Rocket va prendre la route de Belleville pour un duel dimanche après-midi contre les Sénateurs de Belleville. Donc, ça va être la troisième séquence là, de trois matchs en autant de jours pour le Rocket cette saison. Ça va être assez éreintant, là, tu le dis, particulièrement au cours de ce mois de mars éreintant.
Et les Checkers de Charlotte, c'est aussi l'ancien de la LHGMQ, Valentin Zikov, qui a 32 buts cette saison. Pour l'instant, il est avec l'équipe. Est-ce que les Hurricanes le rappelleront là, d'ici le week-end? On verra bien. Mais Raphaël, merci beaucoup de t'être rejoint à nous encore une fois en ce lundi pour Sur la glace. Puis on continue de suivre là, les 11 derniers matchs du Rocket de Laval d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup.
Merci Stéphane.
Voilà donc Raphaël Doucette, collaborateur au RDS.ca et analyste des matchs au 91.9. Moi, je veux ajouter un petit sujet en rapport à la Ligue américaine. On a souligné à Springfield en fin de semaine, chez les Thunderbirds de Springfield, le 1000e match dans les rangs professionnels du Québécois Maxime Fortunus. Bon, ceux qui suivent le hockey de loin un peu ne savent peut-être pas qui est Maxime Fortunus, mais c'est un joueur qui a joué son hockey junior avec le Drakkar de Baie-Comeau entre 1999 et 2003. Un défenseur originaire de la rive sud de Montréal, de la Prairie. Et depuis ce temps-là, il traîne son baluchon dans la Ligue américaine. Il a joué pour les Arrows de Houston. Il a joué au Manitoba. Il a joué au Texas très longtemps, en Iowa également. Et cette année, il s'est joint aux Thunderbirds de Springfield. Et là, il a 870 matchs de jouer en carrière dans la Ligue américaine, 123 dans la Ligue de la côte Est et 9 dans la Ligue nationale. Il a joué 9 matchs dans la Ligue nationale avec les Stars de Dallas qu'il avait rappelé en 2009-2010, le temps de jouer 8 matchs. Et il est revenu en 2013-2014, le temps de jouer 1 match. Mais quand on additionne la Ligue américaine, Ligue de la côte Est et Ligue nationale, il a passé en fin de semaine le cap des 1000 matchs en carrière. Un gars qui n'a jamais été repêché, un défenseur de 5 pieds 11 pouces, qui a toujours été un travailleur très honnête. C'est le cousin de Patrice Bernier. L'ancien capitaine de l'Impact de Montréal. Et c'est un gars, honnêtement, qui a vraiment été un exemple de persévérance. Son numéro 18 est retiré, d'ailleurs, au Centre Henry Leonard à Baie-Comeau. Il a été un des bons joueurs là, de cette concession-là. Alors, je voulais souligner, et sur mon compte Twitter, si vous allez sur Twitter, j'ai placé tantôt un petit vidéo qui dure à peu près 1 minute 30 sur la cérémonie là, qu'on a fait pour Maxime Fortunus à Springfield en fin de semaine. C'est sa première saison avec les Thunderbirds, alors on a souligné l'événement. Et dans la Ligue américaine, seulement 870 matchs, ça le place dans le top 25 de l'histoire de la Ligue américaine pour le plus grand nombre de matchs disputés. Et c'est un gars qui a 34 ans, il lui reste encore sûrement quelques bonnes saisons à donner dans la Ligue américaine. Alors c'est la preuve que des fois, ça fonctionne pas dans la Ligue nationale. Des fois, c'est difficile de faire sa place, mais ça n'empêche pas de gagner sa vie dans le hockey de belle façon et de connaître une belle carrière. Il a gagné en 2013-2014 la Coupe Calder. Il était le capitaine des Stars du Texas, le club école des Stars de Dallas. Alors, c'est lui qui avait soulevé la Coupe Calder à la fin là, des séries éliminatoires. Alors, coup de chapeau donc à ce Québécois, Maxime Fortunus, qui a atteint en fin de semaine une belle, un beau plateau. Un petit mot sur la Ligue de développement Midget 3A, les séries éliminatoires qui se poursuivent dans le circuit Bayard-Gé. On est à l'étape des demi-finales. Et là, il y a une formation qui est vraiment tout feu, tout flamme. C'est les Estacades de Trois-Rivières qui viennent de balayer en 4 matchs les Vikings de Saint-Eustache. Donc, les Estacades de Trois-Rivières, depuis le début des séries, c'est 3 balayages. Ils ont balayé leurs 2 premières séries 3-5 en 3 matchs. Ça a été expéditif contre les Phoenix du Collège Esther Blondin en première ronde, contre l'Intrépide de Gatineau en deuxième ronde. Et là, ils viennent de vaincre en 4 matchs les Vikings de Saint-Eustache. Donc, ils s'en vont en grande finale de la Ligue Midget 3A. Et dans l'autre demi-finale, les Cantonniers de Magog, qui avaient perdu le premier match contre les Grenadiers de Châteauguay, 6-1, bien, ont par la suite été en mesure là, de créer l'égalité et de gagner les 2 matchs à Châteauguay en fin de semaine, 3-2 vendredi. Et 5-1 hier. Donc, les Cantonniers de Magog, dirigés par Félix Potvin, mènent cette demi-finale 3-1 contre les Grenadiers de Châteauguay. Le prochain match aura lieu mercredi soir à l'aréna de Magog. à compter de 19h. Donc, si les cantonniers l'emportent, ils se qualifieront pour la grande finale contre les Estacades de Trois-Rivières. Donc, est-ce que ce sera une finale de Trois-Rivières-Magog ou est-ce que les Grenadiers de Châteauguay sont en mesure de renverser la vapeur? C'est ce qu'on saura. Je vous rappelle que le gagnant de cette finale, le gagnant de la Coupe Jimmy Ferrari, va représenter la Ligue Midget 3 du Québec à la Coupe TELUS qui a lieu à Sudbury à la fin du mois d'avril. Ça fait un peu le tour donc de ce qu'on avait à vous offrir cette semaine pour notre balado sur la glace. Je vous rappelle le début des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est jeudi à Boisbriand. Il y a un match. Vendredi, 6 autres séries vont se mettre en branle. Et samedi, le duel entre Charlottetown et Québec va commencer à Québec. Donc, à surveiller pour les séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à compter de jeudi. Pour ce qui est du Rocket de Laval, on vous le disait, deux matchs contre les Checkers de Charlotte, vendredi et samedi à la Place Belle à Laval, le match de samedi à 15h sur les ondes de RDS en direct et dimanche, Laval qui va se rendre à Belleville. Et c'est ça, on vous donne à nouveau rendez-vous donc lundi prochain pour faire un peu le bilan là, de ces premiers matchs qui ont été présentés dans le cadre des séries éliminatoires. On se laisse là-dessus. Je remercie Raphaël Doucette qui était là pour nous parler du Rocket. Je remercie également Philippe Boucher, entraîneur-chef et directeur général des Remparts de Québec. Le collègue Luc Dansereau qui est toujours là, fidèle à son poste à la technique. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Stéphane Leroux qui vous dit merci d'avoir été là.